Alors je dis bon matin, et ça vous fait penser à quoi? Au Québec, ceux qui ont été au Québec. Et donc je salue nos amis du Québec qui nous regardent peut-être sur YouTube. En tout cas, je vous salue à vous, mais aussi ceux qui sont en live, en streaming sur le web, qui ne peuvent pas se rendre au culte. Il y en a qui sont malades, d'autres qui ne peuvent pas se déplacer, donc c'est une grâce qu'on vous fait. De filmer, et c'est toute une équipe derrière qui doit régler le son, l'image, la lumière. Donc voilà, vous pouvez applaudir derrière votre écran. Et vous aussi, parce que vous en bénéficiez. Quand on fait nos groupes de maison, on a le privilège de pouvoir regarder les vidéos de nouveau, et donc du coup c'est encore une grâce. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu une star mondiale sur ces photos. Vous l'avez vue? Regardez le plus grand. Pas le plus beau, hein, le plus grand. Ça va arriver. En fait, je ne l'ai jamais caché. J'ai eu une vie avant de venir à l'UIG. J'étais footballeur. Depuis ma tendre enfance, hein, là c'est, j'avais quoi, j'avais 12-13 ans là à peu près, peut-être un peu plus. Là-bas non, ça c'était quand j'étais tout jeune, 7-8 ans, même pas, 6-7 ans. Et donc j'ai baigné dans le foot toute ma vie, j'ai même voulu en faire mon métier pour vous dire que j'étais imprégné du foot. Mais depuis quelques années, j'ai pris un peu de distance avec ce sport à cause de la présence de l'argent, qui est venu un peu pourrir l'état d'esprit du sport et aussi des joueurs. Un sport qui au départ était collectif est devenu aujourd'hui une véritable entreprise qui gère des stars multimillionnaires. Aujourd'hui, lorsqu'une équipe possède de l'argent, elle peut acheter les meilleurs joueurs de la planète et en mettre plein la vue aux autres équipes. Forcément, quand on a de l'argent, on se paye ce qu'on veut. Et aujourd'hui, les joueurs professionnels deviennent des stars, ce sont des produits commerciaux qu'on affiche sur grand écran. Et aujourd'hui, on fait de plus en plus appel aux statistiques, à celui qui marque le plus de buts, qui fait le plus de passes décisives, pardon, qui court le plus longtemps, le plus vite, avec le rythme cardiaque le plus faible, qui couvre le plus de terrain, qui touche le plus de balles. Bref, tout tourne autour de la performance au détriment de l'esprit d'équipe. Et c'est pourquoi j'en suis arrivé à me désintéresser petit à petit du foot. Alors je regarde de temps en temps des matchs, mais ça devient très occasionnel. Et je me suis intéressé au rugby. Mon père était un rugbyman, et donc depuis tout petit aussi, on regardait les matchs à la télé. J'ai jamais vraiment pratiqué que quelques matchs, mais sinon, je trouve que ce sport reflète beaucoup mieux l'état d'esprit et l'esprit collectif qu'on devrait trouver dans le sport. En fait, dans ce sport, on ne peut pas briller seul. Ça peut arriver. On peut marquer un essai grâce à une personne. On peut faire même remporter la victoire à son équipe avec un exploit individuel. Allez, à la limite 2, mais pas 15. Ceux qui ont vu les tuches. Et donc, j'aimerais là vous montrer un extrait. Ça dure quelques secondes et je vais vous demander de bien observer cet extrait. Un extrait de rugby, et vous allez voir comment on marque un point au rugby. On va tirer quelques petites leçons de cela juste après. Je vous laisse regarder. Ça dure moins de 20 secondes normalement, si tout fonctionne. Et une heure, si jamais... Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Bon, on va faire comme alors. Hein. C'est compliqué quand on a basé tout son introduction sur une vidéo. Mais on va improviser. Alors, vous avez déjà vu un match de rugby, pour la plupart d'entre vous, j'imagine un petit peu. Qui ne connaît absolument pas le rugby ? Ok, donc waouh, ça va. Pour vous, je suis désolé. Il y avait des images. Et donc l'idée, c'est que, en fait, on se passe la balle. Hein. Peut-être qu'on arrivera, ou tu peux prendre un extrait si tu veux chercher en out. Hein. Mais en général, on n'a jamais quelqu'un qui prend le ballon de son en-but et qui traverse tout le terrain. Hein. Il y a 15 autres joueurs qui sont en face qui vont essayer de vous empêcher d'y aller. Et donc, l'idée, c'est qu'on se passe la balle les uns après les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à marquer un essai. Et en général, il n'y a pas de star. Alors oui, il y a des gens qui sont mieux payés que d'autres, qui courent plus vite que les autres. Ça arrive maintenant aussi dans ce sport, malheureusement, je dirais. C'est encore une fois l'argent qui vient corrompre tout ça. Mais il y a quand même un état d'esprit de corps qui est là et le fait que chacun a un rôle à jouer. Chacun a un poste et chacun, à un moment donné, va recevoir le ballon et le transmettre à quelqu'un d'autre. Ok, vous voyez l'image un petit peu de la transmission. Voilà, c'est l'idée. Et donc, en fait, dans la Bible, enfin, pour qu'il y ait une bonne équipe, il faut qu'il y ait un bon coach. Pour qu'elle se stabilise, qu'elle reste dans le championnat, il ne suffit pas d'avoir une star dans l'équipe, il faut aussi un bon coach, une bonne stratégie et un bon esprit d'équipe. Et je vais faire le pont maintenant avec la Bible. Il me semble que Jésus était le meilleur coach qui ait jamais existé. Et je pense qu'au départ, le rugby se jouait à 12. Regardez bien ce qu'il enseigne, et là vous allez trouver, voilà. Alors c'est la version Second 21. Mais c'est ce que vous trouvez en Jean 4, versets 36 à 38. Vous pouvez prendre vos Bibles à ce texte-là, ceux qui veulent lire ici, ce sera plus facile dans ma version. Et regardez bien. « Déjà le marqueur d'essai reçoit sa récompense et contribue à la victoire éternelle, afin que le passeur et le marqueur se réjouissent ensemble. Car cette parole est vraie. L'un fait la passe, l'autre marque l'essai. Je vous ai envoyé conclure une action qui ne vous a pas demandé tout l'effort initial. D'autres ont mené le jeu en amont et c'est sur leur engagement que vous capitalisez. » Alors je précise à ceux qui n'auraient jamais lu la Bible que c'est pas dans le texte original. Hein. Ça c'est ma version, Second 21, mais ça aurait pu l'être. Maintenant vous allez voir, la version originale, elle est là. Et vous allez voir que c'est pas beaucoup différent, c'est simplement une autre métaphore qui était adaptée au contexte de Jésus. C'est une métaphore agricole. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. C'est une métaphore que Jésus utilise juste après avoir amené la Samaritaine à l'évangile. D'accord ? Et donc, il est en train d'expliquer à ses disciples une stratégie ici qui va bien sûr étayer et que Paul va reprendre à son compte et que nous allons reprendre nous aussi aujourd'hui à notre compte. À l'époque, il n'y avait pas de ballon de rugby, mais s'il y en avait eu, je pense qu'il y aurait eu 12 joueurs sur cette équipe. Ici, il utilise une métaphore agricole parce que la plupart des gens avaient un bout de terre et qui cultivaient. Ça se fait encore. Si vous allez dans les pays, soit en Afrique, soit au Moyen-Orient, beaucoup de gens ont encore des petits bouts de terre parce qu'il faut qu'ils mangent, tout simplement. Et donc, eh ben, il s'adresse à eux avec justement une métaphore sur la moisson, et où on voit ici un travail d'équipe. Et il est en train de dire aux apôtres, vous allez moissonner, mais sachez que vous êtes au bout de la chaîne. Avant vous, il y en a d'autres qui ont travaillé, et après vous, il y en a encore d'autres qui travailleront. Vous voyez, on est simplement un maillon, finalement, de cette chaîne, et Jésus veut nous en faire prendre conscience, et c'est ce qu'on va trouver, figurez-vous, dans le livre des Actes. Et on va aujourd'hui découvrir la stratégie que Paul, donc là c'est l'un des coachs, on va dire, les plus prolifiques du Nouveau Testament, eh bien, que Paul a mis en place pour assurer la croissance et la pérennité des églises. Et donc, on va voir ce matin quatre maillons indispensables pour pérenniser l'œuvre de Dieu. Et là, pour le coup, vous pouvez prendre votre Bible et l'ouvrir à Actes chapitre 18. On va revenir un petit peu en arrière. On ne va pas insister trop longtemps, mais c'est vraiment pour qu'on voit ce processus. On revient au verset 18. J'ai prêché déjà il y a 15 jours sur ce texte, mais on va juste... C'est pour la démonstration. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancré car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de rester quelque temps. Mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » D'Éphèse, il fit voile pour débarquer à Césarée. Il monta saluer l'église, puis il descendit à Antioche. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays de Galatie et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Dans ces 11 versets, on voit l'ensemble du processus, cette grande chaîne qui est là. On a quasiment les maillons essentiels, on va dire. Et le premier maillon de la chaîne de transmission, si vous réfléchissez, avant d'être une église, qu'est-ce qu'il faut en tout premier ? Il faut des gens. Et il faut qu'ils soient quoi, ces gens ? Il faut qu'ils comprennent l'évangile. Donc le premier de ces maillons, c'est l'évangélisation. Évangéliser les non-croyants. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 18 à 22. Sans évangélisation, mes amis, il n'y a pas d'église. Sans nouveaux croyants, les églises finissent par mourir. Et l'EIG ne fera pas exception. Vous savez, moi je visite de nombreuses églises dans toute la francophonie. Et ben parfois, quand je viens, j'ai l'impression d'être à une cérémonie d'enterrement. Parce qu'il y a des chrétiens, mais qui ne font plus rien. Qui restent entre eux. Ils sont super bien entre eux. Et ils n'entreprennent rien. Ils ne sont pas intentionnels. Ils ne vont pas au contact de leurs contemporains. Et donc, si je regarde l'église, je me dis, ok, encore, allez, une génération, et il n'y aura plus d'église. L'évangélisation, c'est le nerf de la guerre, les amis. Si on n'évangélise plus, l'Église meurt, tout simplement. Et si vous regardez les églises du Nouveau Testament, il n'y en a pas une seule qui demeure aujourd'hui. Prenez toutes les églises, à un moment donné, elles périclitent. Soit il y a une dérive théologique, disons-le, soit ça peut être une division, soit ça peut être simplement le fait qu'il n'y a plus de nouveaux croyants qui sont là. En fait, c'est la fin tragique des églises. Si on n'évangélise plus, c'est la mort. C'est donc un maillon indispensable. Et ça transpire dans la vie de Paul Et c'est ce qu'on observe ici dans les versets 18 à 22 qui décrivent la fin du second voyage missionnaire de Paul. Il quitte les Corinthiens, se rend dans le port de Sancré, fait un vœu, se rase la tête et se rend dans la ville d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il arrive à la ville d'Éphèse ? Ce qu'il fait toujours quand il arrive dans une ville et qu'il y a des Juifs, il va, le jour du sabbat, rejoindre ses compatriotes. Et qu'est-ce qu'il fait, à votre avis ? Il enseigne. C'est un rabbin, donc il a le droit d'enseigner. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de démontrer par les Écritures que Jésus est bien le Messie annoncé, le Messie que vous attendez. Et donc, en général, ce qui se passait, quelques-uns écoutaient. Parfois, il y en avait beaucoup qui se convertissaient. Parfois, non. Bien souvent, au bout d'un certain temps, il y en a qui en avaient marre et l'apôtre Paul se faisait soit gentiment éjecté de l'église, soit on le lapidait, c'est arrivé, soit on l'exfiltrait pour pas qu'il se fasse lapider. Et donc c'est un schéma qui revient sans cesse. Ça fait 18 chapitres qu'on parcourt le livre des Actes et à partir du chapitre 12 jusqu'à maintenant, c'est un leitmotiv qui revient. Paul arrive dans une ville, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans la synagogue. C'est bon, je pense que tout le monde a compris maintenant. Mais dans ce cas, Luc ne précise pas si les Juifs se sont convertis à Éphèse. Il ne le dit pas. On voit Paul qui vient, il rentre dans la synagogue, et on voit que des gens montrent de l'intérêt. Ils montrent de l'intérêt, et d'ailleurs, ils lui demandent de rester. Mais on ne sait pas s'ils se convertissent, le texte ne le dit pas. En tout cas, Paul ne reste pas. Il va quitter Éphèse pour se rendre à Jérusalem pour une fête religieuse, peut-être aussi pour accomplir la fin de son vœu. Et donc, qui va-t-il laisser sur place ? Vous vous souvenez ? Deux personnes, un couple, Priscille et Aquilas. Et lui va se diriger vers Jérusalem. Donc, si je résume, la première étape du processus, c'est de trouver des gens que le Seigneur a préparés, qui ont un intérêt spirituel, de les aimer sincèrement, parce que quand on vient pour annoncer l'évangile à quelqu'un, mes amis, il faut de l'amour. Parce que si on n'a pas de l'amour, on va le faire de manière mécanique, ça va se sentir. Donc l'apôtre Paul, il est prêt à mourir pour les Juifs, hein ? Relisez Romains chapitre 9, il est prêt même à aller en enfer pour son peuple. C'est ce qu'il dit. Alors, ça ne peut pas se faire, c'est rhétorique, mais quand même, Paul aime ce peuple, et quand on aime les gens, les amis, on n'a pas envie qu'ils gardent leur destinée, parce que nous, on la connaît. La Bible décrit clairement que Dieu, le Créateur, que le Créateur de l'univers, c'est notre Dieu, que nous sommes des créatures, et qu'en tant que créatures, on aura, un jour ou l'autre, des comptes à lui rendre. La Bible parle clairement d'un jugement. Et elle nous demande de nous positionner ici. Hébreux chapitre 9, verset 27 le dit clairement. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient quoi ? Le jugement. Donc on n'a pas deuxième chance au tirage là. Non. C'est maintenant qu'on doit prendre position. Et donc, Dieu utilise les Écritures, utilise les chrétiens pour annoncer l'évangile, pour révéler qui il est et pour annoncer aux gens qui nous entourent que leur destinée, s'ils ne font pas quelque chose, eh bien ce sera une éternité loin de Dieu, un jugement éternel. Et ça, je déteste en parler, les amis, mais ça fait partie du message de l'évangile. C'est une bonne nouvelle, mais ça commence par une mauvaise nouvelle. C'est que si on fait rien, si Dieu n'intervient pas dans notre vie, les amis, on va finir une éternité loin de la présence de Dieu, et ça s'appelle l'enfer. C'est pas très joyeux ce que je vous dis ce matin, hein, mais dans le message de l'évangélisation, c'est la réalité. Et je ne serais pas pasteur aujourd'hui s'il n'y avait pas cette pression sur moi, en me disant « Waouh ! Mes amis, ma famille, s'ils ne rencontrent pas Jésus, s'ils ne font pas la paix avec leur Créateur, s'ils ne sont pas réconciliés avec Jésus, s'ils ne confessent pas ce que Jésus a accompli à la croix en mourant pour leur péché, eh bien, ils passeront l'éternité sans lui. Et ce message se saisit par la grâce. Donc on ne peut pas l'imposer. Et c'est pour ça que Paul n'insiste pas. À un moment donné, on lui dit « Stop, on t'a assez entendu, c'est ce qui fait Athènes. On t'a assez entendu. Maintenant, tu peux t'en aller. Ça, c'est gentil. Casse-toi. » En fait, c'était plutôt ça. Et donc Paul, ben, il n'insiste pas. Ils ne veulent pas de ce Jésus-là, du Messie qui vient les sauver. Ils n'en veulent pas. Eh bien, je me retire. Et donc, les amis, ça, c'est le premier maillon. Je sais que, parfois, certains croyants se disent, mais dans la Bible, on nous demande de nous séparer. Et donc, on ne fait pas partie du monde. Et donc, quand on prend ce point de vue-là, eh bien, on dit, on se sépare, on ne vient plus au contact du monde. Et donc, on reste entre chrétiens. Et c'est ce que je constate dans certaines églises. J'espère que ce n'est pas le cas dans la nôtre, mais ça pourrait vous arriver si vous pensez que vous ne voulez pas vous souiller dans le monde. Et effectivement, vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes plus du monde. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la mentalité du monde, vous n'adoptez plus la philosophie d'un monde sans Dieu. Maintenant, vous intégrez Dieu dans chacune de vos décisions. Vous essayez d'intégrer Dieu dans chacun de vos projets. Dans tous les plans que vous bâtissez, ici-bas, vous essayez d'intégrer Dieu. Ça, c'est un chrétien. Mais vous pourriez aussi avoir peur d'aller à le rencontrer. Certains ont cette peur. Mais Jésus le clarifie, il nous dit, mais les amis, vous êtes une semence. Regardez ce que dit Matthieu. Donc c'est Jésus qui parle, et il dit, regardez qui est la semence ici. « Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. » Et vous voyez, la semence, généralement, c'est la métaphore de la parole de Dieu. Hein, on vient annoncer l'évangile. Mais la Bible, elle, ici, nous donne une autre perspective, c'est que nous sommes ici, tous dans cette salle, des semences envoyées dans le monde. C'est ce que nous sommes. Donc tous les croyants de l'EIG, sans exception, sont des semences envoyées dans le monde. Nous sommes des semences envoyées dans le monde. C'est-à-dire, c'est Bibi Lolo et c'est vous. Tout le monde. Vous avez ce texte qui nous rappelle que l'on n'est pas du monde. Mais regardez bien la fin. Est-ce que tu peux avancer? Ça ne marche pas ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah bah oui, c'est éteint, forcément. Jean chapitre 17. « Je ne te prie pas, » donc c'est Jésus qui parle, « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Notre royaume n'est pas ici-bas, les amis, hein. Il est là-haut. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Vous voyez ? C'est que oui, on est séparés du monde, c'est clair, on ne fait pas partie du monde, notre royaume n'est pas ici-bas, mais on est envoyé dans ce monde, en tant que semence. Et donc oui, il y a une possibilité qu'on se souille. C'est une possibilité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la vérité, de la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. On a besoin des Écritures. On a besoin de venir au culte. On a besoin de venir au groupe de maison pour essayer de comprendre le message et de l'appliquer dans notre vie. Et les groupes de croissance sont là pour qu'on se rende des comptes, qu'on soit redevable. Parce que si on veut vraiment grandir, on doit avancer de cette manière-là. Donc, Dieu nous envoie, nous sommes cette semence, chacun d'entre nous, et nous sommes envoyés dans le monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ici j'entends ceux qui sont un peu timides, qui disent « Mais moi je ne suis pas évangéliste !» Mon ami, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'avoir un don pour parler. Il s'agit de faire comme dans cette équipe de rugby, de passer le témoin, d'accord ? Parce que c'est ce que tu es en fait, tu es une semence, tu es un joueur de cette équipe, ok ? Et donc tu vas passer le ballon. Il y en a un qui va mettre l'essai, D'accord ? Il y en a un, effectivement, le dernier, au bout de la chaîne, lui, il va plaquer. En gros, c'est le moissonneur, lui. Lui, il met les points, on dit « Waouh, c'est un super joueur !» Sans les autres. Donc oui, t'es peut-être pas le dernier joueur, mais t'as ton rôle à jouer dans la chaîne, en fait. Et dans cette grande chaîne de témoins, on a chacun un rôle à jouer. Et Dieu va nous utiliser avec nos dons, mais on n'a pas forcément un don d'évangéliste. Par contre, on est des semences. Je vous rappelle ce que nous sommes, le sel et la lumière. Nous sommes le parfum de Christ, des témoins, des ambassadeurs, des réconciliateurs, des ponts, etc. Donc c'est vraiment ce que nous sommes, notre identité. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que vous avez vu qu'il y a très très peu de commandements à évangéliser, mais énormément de rappels à ce que nous sommes. Et quand vous levez le matin, c'est pas vous dire « Ah, il faut que… » Non, non, je suis ça. Je suis un enfant du roi. Et donc si je suis un enfant du roi, je vais vivre comme un enfant du roi. Si je suis un ambassadeur, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu es une semence, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu es une lumière, c'est ce que tu es le matin, tu pourras allumer tous les boutons. Hein. C'est ce que tu es. Et Dieu te rappelle chaque matin, « Oh, aujourd'hui tu es encore témoin, t'oublie pas. T'es encore la lumière, tu dois éclairer à tes collègues, t'es encore le sel, tu dois être savoureux dans tes paroles, tu dois donner envie, tu dois donner soif, etc. » Donc vous avez bien compris, premier maillon indispensable, évangéliser les non-croyants. Deuxième maillon, enraciner les jeunes disciples. Évangéliser et maintenant enraciner les jeunes disciples. Et c'est ce qu'on lit au verset 23. Pardon. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays de Galatie et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Une fois que Paul a posé les bases de l'évangile, le salut par la grâce, le jugement éternel, le baptême, le rôle de l'Église, l'Église, tous ces éléments fondamentaux, le PFF quoi en gros, il revient affermir les disciples, retourne dans les maisons, les églises en formation et va les nourrir pour que les chrétiens grandissent et à leur tour deviennent autonomes spirituellement, c'est-à-dire qu'ils soient capables de se nourrir tout seuls, de s'appuyer sur le Saint-Esprit et les Écritures pour faire face aux réalités de la vie, pour contrer aussi les attaques du diable. Et là, je fais référence au message de la semaine dernière. Comment Jésus a-t-il fait face aux attaques de l'ennemi ? Par l'Écriture. Parce qu'il avait une connaissance et une pratique des Écritures. Il expérimentait cette parole de Dieu. Elle faisait partie de lui parce qu'il l'avait mémorisée, parce qu'il la vivait dans son quotidien. Et c'est ce que vise ici l'apôtre Paul, c'est que une fois qu'on a annoncé l'évangile, maintenant il va falloir les enraciner. Et si on reprend la métaphore de la semence, c'est comme si Paul venait ou revenait déposer de l'engrais, du terreau, là où la plante avait commencé à pousser. Vous voyez, sur cette image, c'est ce qui se passe. Il avait semé les graines, la graine a germé, elle a commencé à pousser, et vous voyez cette petite plante qui pousse ? Eh bien là, on va la fortifier pour que ses racines commencent à grandir dans la terre. Et si on ne fait pas cela, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Si on ne vient pas à ce moment-là enrichir la terre, s'il y a le soleil qui vient frapper et que les racines sont juste à la surface, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous avez fait de la plantation, c'est pas compliqué, hein ? Ça grille, tout simplement. Quand il n'y a pas de racines, s'il y a le soleil qui frappe, s'il y a du vent, s'il y a de la grêle, s'il y a même beaucoup de pluie, pouf, tout va tomber. Autrement dit, les intempéries, ça représente tout ce qu'on vit ici dans la vie. Vous savez, en 1986, et j'ai raconté ça, cette statistique, vous la trouverez dans le livre vert en vente à la sortie, un petit coup de pub. En fait, en 1986, ça commence à dater un petit peu, bientôt 40 ans, il y a une grande campagne d'évangélisation qui a été faite en France, et donc on a fait venir l'un des plus grands évangélistes de la planète, Billy Graham, si vous ne l'avez pas reconnu. Billy Graham, on estime qu'il a annoncé l'évangile à 200 millions de personnes dans le monde. On a du bonhomme là déjà. Eh bien, cet homme a fait une série de conférences. Et je connais des gens qui se sont convertis pendant cette période. Donc, l'évangile a été clairement prêché. Il y a des chrétiens qui sont là. Sauf que... Ah, déjà 30. Deuxième point, c'est pas bon signe. Je vais donc accélérer. En fait, cet homme, il a annoncé l'évangile à des milliers de personnes. Et il faisait tous les soirs un appel. Des gens levaient la main, descendaient dans une fosse, priaient. Et puis ensuite, il y avait des conseillers. Mon épouse faisait partie de ses conseillers. Elle était jeune, mais quand même, elle a fait partie de ses conseillers. Et donc, on a fait des statistiques après, parce que les gens ont été suivis, etc. 2 ans plus tard, à votre avis, combien de personnes étaient dans des églises, engagées dans des églises? Allez, dites-moi un chiffre. 20, non, non, en pourcentage. 20%, 10. Il y en a qui ont lu le livre. 5% seulement. 5%. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a 95% des gens qui avaient confessé la foi et qui n'étaient, 2 ans après, il n'y avait plus rien. 95%. De déchets. Alors il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer cet abandon, hein. J'ai pas la réponse. Mais l'une d'entre elles, mes amis, c'est l'absence de suivi post-profession de foi. Parce que les gens qui sont descendus et les gens qui les ont suivis ne se connaissaient pas, n'habitaient pas forcément les uns à côté des autres. Ils n'étaient pas connectés. Et vous savez, on a un missionnaire qui est venu dans notre église à Dijon, puis un jour il m'a dit, écoute, je vais partir dans une autre ville, bien plus loin. Et donc, je te donne toute la liste de mes contacts. Ok, sympa. C'est des gens à qui j'ai annoncé l'évangile, voilà, c'est super. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces gens m'ont appelé? Ces gens, ils sont tout seuls aujourd'hui. Parce que prendre mon téléphone, les appeler, c'est bien gentil, mais bah, je te connais pas. Et donc, voyez l'intérêt d'avoir des croyants et de faire nous-mêmes ces démarches-là, de connecter à nos amis. C'est tellement plus fructueux. J'ai pas de pourcentage, parce que forcément, il y aura des gens qui ne suivront plus l'évangile au bout d'un certain temps. Mais on a beaucoup plus de chances de multiplier, de faire ce suivi qui a été probablement fait, mais avec cette distance, vous voyez, et je pense que c'est un des grands facteurs. Et Paul était conscient de ça. Il savait que si on n'affermit pas le cœur et la foi des jeunes disciples, il y a de fortes probabilités pour que soit ils retournent dans le monde avec lesquels ils ont encore beaucoup d'affinités, ça c'est généralement ce qui se passe, soit ils se découragent devant les épreuves de la vie, le mépris des incroyants, parce que ça va être difficile, le manque de ressources pour marcher à contre-courant, parce que c'est ça la réalité. Soit ils vont se laisser séduire par les tentations du monde, parce qu'ils ne sont pas équipés spirituellement, ils ne connaissent pas les Écritures, et ils vont se laisser embarquer, soit par une doctrine, soit par le monde, soit par l'attrait de l'argent, et toutes sortes de choses. Et on a plein de métaphores dans la Bible pour nous raconter tout cela. Troisième maillon, j'accélère maintenant. Troisième maillon de la chaîne de transmission spirituelle, c'est de repérer et d'équiper les futurs leaders. Et c'est ce qu'on lit au verset 24. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc je vais accélérer. Ici, on voit plusieurs acteurs. Déjà, Apollos, on découvre cet homme. Un homme, le texte dit qu'il est éloquent et versé dans les Écritures. Le mot « versé », c'est le même mot qui a donné « dynamite ». Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui était zélé, vraiment passionné par les Écritures. Et en plus, il était éloquent, donc il avait une facilité pour parler. On dirait aujourd'hui un bon prédicateur, un orateur charismatique, vous voyez, quelqu'un qui, voilà, on a envie de l'écouter quand il parle. Et donc, cet homme était imprégné de l'écriture, Il venait dans les synagogues, il enseignait que Jésus était le Messie, parce que c'est ce que dit le texte ici, il connaissait parfaitement le message de Jean. Et Jean, il a annoncé la venue de Jésus. Sauf que lui, il en était resté là, il n'avait pas la suite. Vous voyez, il savait pas que ce Jésus qui était venu est allé jusqu'à une croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il lui manquait quand même un bout du message, mais il avait compris l'essentiel, on va dire. Si vous aviez été dans la salle, et c'est ce qui se passe, Aquilas et Priscille sont dans la salle, ils l'écoutent. Il est en train de raconter des choses sur Jésus qui sont parfaitement justes, mais pas complètes. Au lieu de le corriger en public, ils le prennent avec lui, à part, dans leur maison, pas devant tout le monde, discrètement, et ils vont corriger son enseignement. Donc il était croyant cet homme, mais il avait juste besoin d'un petit update, vous voyez ? Une mise à jour nécessaire. Pour le coup, c'est clair qu'on ne lui avait jamais parlé du Saint-Esprit, de l'Église, c'était quelque chose de flou. D'ailleurs, s'il était dans une synagogue, ce n'était pas pour rien. Et on voit aussi Aquilas et Priscille qui étaient là dans cette synagogue. Mais je vous rappelle que le livre des Actes, on est à cheval entre deux alliances. Et donc parfois, vous allez retrouver des pratiques de l'ancienne alliance qui sont encore présentes. Et c'est petit à petit que ça va disparaître. Plus les païens vont rentrer dans l'église et plus les pratiques juives, on va prendre de la distance avec les pratiques juives. Et donc le Shabbat dans les synagogues ou les fêtes religieuses à Jérusalem ou certaines pratiques comme les vœux, vont disparaître petit à petit. En tout cas, on sait, j'avance un petit peu, que Aquilas et Priscille avaient une église dans leur maison. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 16, 19. C'est Paul qui dit « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien dans le Seigneur. » Et là, eux, ils étaient à Éphèse, donc il envoie cette lettre aux Corinthiens, qui connaissaient Priscille et Aquilas, et il parle d'une église de maison. Vous voyez ? Donc, ils allaient à la synagogue, mais on ne sait pas si c'est juxtaposé, si c'est au même moment, mais en tout cas, ils avaient l'église dans leur maison. Et donc, quand il le voit, il discerne chez Apollos un potentiel. Immédiatement, il voit ça. Il ne voit pas seulement ses lacunes, il voit ce qu'il pourrait devenir avec un enseignement plus précis. Et c'est ce qu'ils vont faire, discrètement, humblement, alors que ce sont des marchands, des vendeurs de tentes, hein, donc c'est des artisans. Moi, je trouve ça assez remarquable. Ils vont le prendre et le corriger. Et il y a deux choses qui se passent. C'est déjà le modèle qu'on voit ici en Priscille et Aquilas. Ils ne gardent pas pour eux ce qu'ils ont appris de l'apôtre Paul. Parce qu'eux ont été formés par Paul. Ils ne gardent pas pour eux, mais ils vont prendre quelqu'un qui connaît moins qu'eux et ils vont lui enseigner un petit peu plus. C'est un homme éloquent, mais il avait quand même besoin d'un petit update. Donc vous voyez, ils ont eu un rôle à jouer. Il était probablement largement plus doué que eux au niveau rhétorique, au niveau prédication, au niveau enseignement. C'était un érudit, mais cet érudit, il avait besoin d'un update et ils ont joué ce rôle-là. Donc vous voyez, je trouve que c'est remarquable déjà d'avoir cette initiative, mais aussi d'être comme des Apollos. On devrait être comme des Aquilas et Priscille, en ne gardant pas pour nous ce que nous savons et en allant chercher autour de nous des gens qui connaissent moins. Et là, je vous lance un défi cette année. Ça, c'est mon rêve. Je vous dis mon rêve. J'ai le droit. Hein ? Ça mange pas de pain, c'est gratuit les rêves. Ce serait que chacun dans l'église, ici, là, on est 54, on va être 60, si je me trompe pas, attendez. 53, c'était ? On fait plus 53. Donc on fait plus 15, moins 3, parce qu'on perd 3 membres. Donc ça fait plus 12. Si on compte, ça fait 65. 65. Donc 65, vous divisez par 2, ok ? Eh bien, sur ces 65, bon, 32,5, ça va être compliqué. Allez, j'en prends 2. 66, ah oui, 66. Ah bah c'est parfait, 33. Chiffre parfait. 33, ça veut dire que 33 d'entre nous, on va pouvoir prendre quelqu'un qui connaît moins que nous et l'aider à avancer, comme Aquilas et Priscille l'ont fait. Ça, c'est mon rêve, qu'on parraine quelqu'un dans l'Église. Les groupes de croissance, on essaye de les mettre en place, et ça a du mal à prendre. Ça a du mal à prendre. Alors peut-être que cette formule-là fonctionnera mieux. Je lance l'idée, mais c'est qu'on ne reste pas seul, que le peu qu'on connaisse, on peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu viens de te convertir, mais tu connais au moins l'Évangile. Tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre qui connaît moins que toi. Vous voyez ? Peut-être que vous avez appris des versets, que vous avez suivi un cours, que vous avez lu un livre. Vous avez des connaissances, les amis. Eh bien, transmettez-les à quelqu'un. Alors, je sais que les mamans, vous transmettez déjà à vos enfants, et c'est génial. Mais peut-être que prendre juste une personne en dehors de ce cercle familial et pouvoir l'aider. On le fait déjà individuellement, mais j'aimerais que chacun puisse le faire. C'est une idée, d'accord ? Alors, un défi, un rêve, mais je vous le lance. Et puis, l'autre, c'est être comme des Apollos. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des plus petits que nous, humblement. On a beau être des érudits, on a tous besoin d'apprendre des plus petits que soi. Et vous savez, mon disciple actuel, celui que je vois tous les jours quasiment, c'est Damien, il m'apprend plein de choses. Et pas seulement en mécanique. Pas seulement en mécanique. Dans la vie, l'observer, voir son enthousiasme. Alors des fois, je me dis, ça va diminuer un peu. Mais non, c'est moi qui ai diminué et qui devrait un petit peu, peut-être, me booster. Et lui, il est là, il frétille. Ah, viens, viens. Vous voyez, c'est ça. On peut apprendre des plus jeunes que soi. Et allez, dernier point. Donc ça, c'est équiper les futurs leaders. Et le dernier, envoyer les meilleurs. Envoyer les meilleurs. Et ça, j'avoue que c'est l'aspect du ministère qui me déchire le plus le cœur. C'est pas naturel pour moi et pour la plupart d'entre nous. Lorsqu'on a passé des heures avec des gens doués, lorsqu'on les a bien formés, qu'on a transpiré avec eux, qu'on les voit autonomes spirituellement, matures dans leur foi, eh bien il faut du courage pour leur dire « Va-t'en, dégage, tire-toi, va ailleurs, tu seras plus utile ». C'est compliqué pour moi de dire ça. Et pourtant, c'est ce qui va se passer ici. Comme il voulait passer en Achaïe, donc là il parle d'Apollos, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Ici, j'attire votre attention. D'où vient l'appel d'Apollos ? Est-ce qu'il s'est levé un matin en se disant « Moi, j'ai un don de prédicateur ». Peut-être que ça peut être le cas, hein. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Peut-être qu'il a ressenti au fond de lui-même un appel fort, vous voyez ? Paul l'a vécu. Mais ce n'est pas le cas ici et ce n'est pas le cas la plupart du temps. C'est qui l'appelle ici, au ministère ? C'est l'Église. C'est l'Église. Ils l'y encouragèrent et y écrivirent, et ils écrivirent une lettre de recommandation. C'est l'Église qui atteste les ministères, les amis. On est là pour ça. On est là pour authentifier un don, on est là pour authentifier votre foi, et on est là pour authentifier aussi les envoyés. Et cet homme-là avait des dons. Mais les anciens ont vu ses capacités et ils ont dit « Ok, peut-être qu'à Corinthe, ils ont plus besoin de toi. » Il voulait y aller, il avait déjà cette aspiration, mais il le confirme derrière. Donc il ne s'est pas autoproclamé prédicateur évangéliste, hein. On en connaît, vous en connaissez tous. C'est l'Église qui l'a envoyé et ça fait toute la différence. Ce n'est pas un orgueilleux. On l'a vu dans son attitude se faire corriger, enseigner par une femme dans le milieu juif, parce que c'est Aquilas et Priscille qui l'ont enseigné. Un couple. Être capable de recevoir un enseignement d'une femme juive, enfin d'une femme, déjà, c'est... et l'humilité qu'il y a derrière. Donc vous voyez, on avait déjà l'ossature, et bien elle ne fait qu'être confirmée ici. Et donc il va être envoyé. Et dernier point, dernier élément que vous voyez que ici, quand il va arriver sur les lieux à Corinthe, dans l'église de Corinthe. Il va se rendre très utile. C'est ce que dit Luc. En fait, Dieu va l'utiliser peu importe le lieu où on se trouve, les amis. Peu importe le lieu où on se trouve. Si on a un don, si on est envoyé par l'église, qu'on est reconnu, qu'on est attesté, recommandé, alors là où on sera, le Seigneur nous utilisera. Mais voyez, les cow-boys solitaires, ceux qui s'imaginent qu'ils ont un don et qui partent comme ça, tout seuls, ça finit généralement dans le mur. Et on en connaît. Et vous savez, nous, ça fait des années qu'on suit des étudiants et malheureusement, on voit des murs et ça fait mal. Ça fait mal. Et donc les enseignants, le corps enseignant, sont là pour observer l'attitude et puis dire, ok, peut-être que c'est le bon moment, peut-être pas. On est là pour tempérer, pour essayer de donner les bons éléments pour qu'il n'y ait pas d'échec au bout. Allez, je résume le processus ici. Évangéliser les non-croyants, enraciner les jeunes disciples, équiper les futurs leaders, envoyer les meilleurs. Ça, c'est le message que j'ai fait moi cette semaine. Mais ça fait plusieurs mois que sur notre site, il y a ce schéma-là. Ce schéma-là, il a été mis en place suite à la formation qu'on a eue il y a 4 ans. Eh bien, on retrouve quasiment, mot pour mot, le même processus. C'est ici, vous avez l'adresse sur notre site dans la partie présentation et notre mission. Notre mission, si vous l'acceptez, c'est de vous prendre à la première étape et de vous amener jusqu'au bout, à la 6e. Il y a tous les détails qui sont expliqués sur le site. Mais voyez, on a à chaque étape des outils pour vous faire avancer d'une étape à l'autre. Ce ne sont pas des outils parfaits, ce sont des outils qui vont même progresser dans le temps. Mais à chaque étape, on peut proposer quelque chose. Au départ, c'est la découverte. Moi, je suis le spécialiste et je forme qui veut dans l'église pour lancer des groupes découvertes de la Bible. J'en ai actuellement 3 avec des gens qui sont en approche de la foi. Vous les voyez de temps en temps à l'église, parfois ils sont à distance, mais ça c'est mon dada, parce que j'aime faire découvrir l'évangile. Mais donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a franchi ce cap, on va s'identifier. Et là encore, on a des outils. Ensuite, on va grandir dans notre piété. Là, c'est là qu'on va intervenir la membriété, une préparation au baptême. On va se faire baptiser. Et puis, on intègre l'église. Et puis là, on va se mettre au service. C'est l'étape 4. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on a manifesté quelques dons, eh bien, on va nous donner des responsabilités. C'est à nous qui allons conduire un ministère. Finalement, on retrouve un petit peu ce schéma dans le texte de ce matin. Donc vous voyez qu'on n'a rien inventé de nouveau, on a simplement peut-être mis des mots plus modernes, et puis on y a fait correspondre des outils qui sont de notre temps.